Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à chacun. Depuis 22 ans, les rentrées se suivent et ne se ressemblent pas. Et cette année, comme les précédentes, eh bien, nous avons besoin de la direction du Seigneur. Et c'est très exactement dans sa parole que nous allons chercher sa volonté. Le texte que nous venons d'entendre est extrait d'une lettre que l'apôtre Pierre a adressée aux chrétiens de son époque, dispersés dans 5 provinces de l'Asie mineure. Il sait que ces chrétiens souffrent à cause de leur foi au milieu d'un entourage qui leur est hostile. Et Pierre cherche donc à les encourager en leur rappelant tout ce que Dieu a fait pour eux par Jésus-Christ. Si le monde ne les a pas choisis, Dieu les a bien choisis pour être son peuple. Dieu leur a donné une espérance vivante et certaine à laquelle ils peuvent s'accrocher alors qu'ils vivent des temps difficiles. Désormais, les chrétiens ne vivent plus comme leurs contemporains. Ils ont complètement changé de vie. Et dans cette même lettre, Pierre encourage, donne des conseils sur la manière de se comporter vis-à-vis des non-chrétiens dans toutes les sphères de la société. Et pour la partie qui nous intéresse ce matin, Pierre exhorte aussi ses chrétiens à vivre ensemble, avec la perspective que le Seigneur revient bientôt. Et ce qui était vrai au premier siècle de notre ère est toujours d'actualité pour nous. Le Seigneur n'est toujours pas revenu. Ce que Pierre dit à ses frères et sœurs de l'époque est toujours valable pour nous, Église de Saint-Maur. Alors, en cette rentrée 2024, faisons le point pour savoir si notre communauté marche dans la bonne direction en fonction de ce que nous venons de lire. Laissons encore Dieu nous interpeller ce matin, nous toucher et nous conduire au changement qu'il veut produire au sein de cette Église. Puisque notre roi et notre juge revient bientôt, sur quoi devons-nous veiller en tant qu'Église? Premièrement, veillons sur un mode de vie équilibré.
Premièrement, veillons sur un mode de vie équilibré.
Deuxièmement, veillons sur notre amour les uns pour les autres. Et enfin, veillons sur le bon usage de notre don. Veillons donc d'abord sur un mode de vie équilibré. Avant le verset 7, l'apôtre Pierre avait déjà évoqué la perspective que ceux qui calomniaient les chrétiens devraient rendre des comptes au juge des vivants et des morts, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est en effet à Jésus que reviendra le jugement final. Et à ce moment-là, l'histoire de ce monde tel que nous le connaissons aujourd'hui prendra fin. Et quand Pierre dit que la fin de toute chose est proche, il pense bien sûr au retour du maître qu'il a suivi et qu'il a vu ressusciter d'entre les morts et qui est retourné auprès du Père. La fin de toute chose semble une expression pessimiste pour celles et ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais pour les chrétiens, c'est une très bonne nouvelle. Cela signifie que le merveilleux roi qu'ils adorent va enfin établir son règne. Et ce jour-là, il n'y aura plus d'opposition ni de contestation, car celles et ceux qui ont rejeté notre roi en cette vie-ci recevront la sentence qu'ils méritent. Ce sera la fin de ce monde dominé par le mal et marqué par le péché. Ce sera la fin de ce monde marqué par la souffrance. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, mais nous n'y sommes pas encore. En attendant, le mal continue de progresser, les désordres, les convoitises, les excès en tout genre caractérisent la vie de nos contemporains. Et ceux-ci, donc nos contemporains, n'ont pas conscience qu'un jugement va leur tomber dessus. Et nous, allons-nous aussi nous ruer vers tous les excès que ce monde propose? Excès dans la nourriture, dans la boisson, dans les distractions, dans l'accumulation des biens matériels? L'apôtre Pierre utilise ici deux impératifs dans notre texte. Soyez sages et soyez sobres. Réfléchissons un instant à ce que cela signifie à notre époque. Combien d'entre nous sont prêts à dire qu'ils sont trop occupés dans leur vie? Et à l'opposé, combien d'entre nous trouvent que leur mode de vie est équilibré? J'ai plus souvent entendu des gens me dire qu'ils n'avaient pas le temps que le contraire. Et Dieu nous dit ce matin d'être sages et sobres. Est-ce que nous lui obéissons? Pourquoi devons-nous préférer un mode de vie équilibré? Est-ce parce que c'est bon pour la santé? Eh bien, je n'en doute pas. Mais Pierre nous dit plutôt qu'il faut être sage et modéré parce que la fin de toute chose est proche. Frères et sœurs, c'est parce que nous savons que la fin est proche, contrairement à nos contemporains, que nous choisissons volontairement de vivre comme Dieu nous le demande. C'est-à-dire en étant sage et sobre, sans trop charger notre emploi du temps, sans trop multiplier les activités. Et dans quel but? Pour avoir le temps de prier. Est-ce que dans notre église, nous prenons le temps de prier? Je suis certain que Pierre pense aussi bien à la prière individuelle dans notre quotidien qu'à la prière collective lorsque nous nous retrouvons le dimanche ou à un autre moment. Si nous avons conscience que la fin de toute chose est proche, que le Seigneur va revenir selon sa promesse, est-ce que cela ne devrait pas changer notre manière d'organiser notre vie? Laissez-moi faire un parallèle avec un exemple. Si demain nous savions qu'il nous restait peu de temps à vivre, est-ce que cela changerait notre mode de vie? Est-ce que nous continuerions à faire toujours autant et toujours plus? Ce que j'espère, c'est que vous me diriez que non, vous ne continueriez pas à vivre ainsi. Si le retour du Seigneur est proche, ne devrais-je pas mettre plus de temps de côté pour prier et pour prier avec mes frères et sœurs? Prier pour tenir bon dans la foi. Prier pour supporter les souffrances du monde présent. Prier pour être prêt lorsque Jésus sera là et qu'il jugera tous les hommes. Par les mots de l'apôtre Pierre, le Seigneur nous dit encore ce matin, « Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » Et si notre Église ne suit pas cette instruction, alors nous sommes en échec devant la volonté de Dieu. Frères et sœurs, prenons part aux réunions de prière. Utilisons le temps que nous avons, la disponibilité qui est la nôtre, pour prier ensemble. Ne nous laissons pas aveugler par l'illusion que ce monde demeurera toujours ainsi. Dieu y mettra un terme. C'est notre espérance et la raison pour laquelle nous voulons mettre de l'ordre dans notre vie afin d'être disponibles pour la prière. Avant de revenir, le Seigneur nous donne encore l'occasion d'aligner notre vie sur sa parole. Et cette année en particulier, veillons sur un mode de vie équilibré. Et cela implique à coup sûr de faire un certain nombre de choix pour nous rendre plus disponibles. Plus disponible pour le Seigneur et plus disponible pour les frères et sœurs. Et justement, deuxièmement, veillons sur notre amour les uns pour les autres. Pierre commence le verset 8 ainsi, avant tout. Avant tout. Qu'est-ce qui est primordial dans la vie d'une église ? Qu'est-ce qui est essentiel pour une communauté chrétienne qui cherche à vivre ensemble ? La réponse est dans ce verset. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Pierre a bien retenu le commandement nouveau que Jésus a donné à ses disciples, l'amour les uns pour les autres. Ce que les visiteurs, croyants ou non-croyants, doivent trouver dans n'importe quelle église locale, c'est l'amour fraternel. Et vous remarquez que l'amour que nous nous devons les uns aux autres est un amour qualifié d'ardent. D'autres comprennent l'idée d'un amour constant, qui dure dans le temps et en intensité. Et qui dans cet univers nous aime d'une manière constante et fidèle malgré nos défauts et nos péchés? N'est-ce pas le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour nous sur la croix? Il est impossible d'aimer nos frères et sœurs comme Pierre l'exhorte ici, sans se référer d'abord à celui qui nous aime, au-delà de tout ce que nous connaissons. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, a dit le Seigneur. Cela signifie pour nous que nous devons nous aimer les uns les autres malgré nos défauts et nos péchés.
Pour nous,
C'est pourquoi Pierre ajoute, peut-être en citant Proverbe 10, verset 12, que l'amour est plus fort qu'une multitude de péchés. L'amour fraternel, sur le modèle de Jésus-Christ, implique de supporter les autres, de pardonner leurs offenses. Pierre a bien conscience que l'Église est composée de personnes imparfaites et capables de pécher. Et inévitablement, dans toutes les églises du monde, il en est ainsi. Mais au lieu d'être fataliste devant cette réalité, nous avons le commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Pas seulement durant cette année en cours, mais avec constance, comme le Seigneur nous aime. Avant tout, veillons sur notre amour les uns pour les autres, car nous sommes liés les uns aux autres, unis au même Sauveur et Seigneur. Si possible, ne soyons pas des inconnus ou des anonymes les uns pour les autres. Si possible, apprenons à aimer chaque frère et sœur. Si possible, passons cette année davantage de temps avec les frères et sœurs. Et concernant l'amour fraternel, Pierre mentionne deux manières concrètes de le vivre, l'hospitalité et le service. Parlons d'abord de l'hospitalité. Verset 9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. À l'époque, Airbnb n'existait pas. Et autant dire que les auberges n'étaient pas des lieux très sûrs, puisque tout le monde, y compris des brigands, pouvait y passer. Et si un chrétien était de passage dans une ville, le mieux pour lui en termes de sécurité et de confort était d'être hébergé chez un autre chrétien. Il faut aussi se rappeler que les réunions d'église se déroulaient uniquement dans la maison des uns et des autres. Donc l'hospitalité, en plus d'être une marque d'amour, était nécessaire pour que les chrétiens puissent se retrouver. Imaginez un instant que nous n'aurions pas ce bâtiment. Où se passerait le culte? Normalement, chez l'un d'entre nous ou chez plusieurs d'entre nous. Est-ce juste le temps d'un dimanche ou deux? Non, cela concernerait tous les dimanches et pendant des années. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous seriez lassé de recevoir toujours du monde et de devoir faire le ménage après?
罪总总是接待人生活，事后还要不停地打扫卫生。
L'amour fraternel est un amour constant.
兄弟之间的爱是一种永恒的爱。
C'est pourquoi Pierre exhorte d'ouvrir les maisons aux frères et sœurs sans murmurer, sans se plaindre.
所以使徒彼得就敦促我们弟兄姐妹要开放我们的家，不要窃窃私语，不要抱怨。
Et je ne compte plus le nombre de fois où j'ai moi-même bénéficié de cette hospitalité quand j'étais en déplacement ici ou là en France. Et en particulier chez des frères et sœurs que je rencontrais pour la première fois. Et je comprends par l'exhortation de Pierre que le Seigneur ne nous a pas donné un toit seulement pour nos propres besoins, mais aussi pour ceux de l'Église. Et je suis encouragé de voir que nous sommes déjà nombreux ici à ouvrir nos maisons. Continuons encore cette année à exprimer notre amour fraternel en nous accueillant les uns les autres. Et sans doute que le dimanche après-midi est une bonne occasion. L'amour les uns pour les autres est primordial selon les instructions du Seigneur. Alors que la fin de toute chose est proche, le Seigneur nous appelle à un mode de vie équilibré pour être disponible pour la prière. Il nous appelle aussi à nous aimer ardemment les uns les autres sans relâche. Et après avoir parlé de l'hospitalité, Pierre compare maintenant les chrétiens à des intendants, des gestionnaires dans la maison de Dieu. Et donc, troisièmement, veillons sur le bon usage de notre don. Voici ce que nous lisons au verset 10. « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Dans notre église, nous avons un diacre intendant, il s'agit d'André. Et nous sommes reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il fait concernant nos locaux. Nous voyons qu'il a le souci de bien prendre soin du bâtiment. Et après tout, c'est ce que fait un intendant, c'est sa responsabilité. Ici, tous les chrétiens sont considérés comme des intendants, non pas d'un bâtiment, mais des dons que Dieu a donnés dans sa grâce et dans une grande diversité. Et si chacun a reçu un don, tous n'ont pas reçu le même don, de telle sorte que nous dépendons les uns des autres. Et notre responsabilité en tant qu'intendant est d'utiliser ce don pour servir nos frères et sœurs. Aucun don spirituel n'a été donné par Dieu pour un usage personnel.
Dieu
Certains d'entre nous se posent peut-être la question suivante : quel est le don que Dieu m'a fait ? Qu'est-ce que je peux faire qui soit utile pour les autres ? Un pasteur a dit un jour que la question à se poser n'est pas « quel est mon don ?» mais « qui est dans le besoin ?» Qui est dans le besoin ? Et effectivement, auprès de qui puis-je être utile ? Auprès des enfants ou des jeunes qui ont besoin d'être enseignés sur Dieu et sur sa parole ? Auprès de ceux qui souffrent et qui ont besoin d'être encouragés ? Auprès de ceux qui ont des besoins matériels ? Auprès de ceux qui sont malades ? Ou encore auprès de ceux qui sont âgés ? Et si nous estimons pouvoir servir l'une ou l'autre personne dans le besoin, c'est là peut-être le don que nous avons reçu du Seigneur. Et vous l'avez bien compris, ce que nous avons reçu par grâce est d'abord utile pour les autres. Et Pierre précise les choses au verset 11, « Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. » Dieu donne à certains d'entre nous d'être ses porte-parole, d'enseigner, d'encourager, de prêcher selon sa parole. Et Dieu veut que sa parole soit annoncée dans l'Église. Si quelqu'un parle, il ne le fait pas en son nom. Il ne met pas en avant ses propres pensées ou ses propres idées. Il met en avant la seule parole qui compte pour le peuple de Dieu, qui fait autorité, qui permet de connaître Dieu. Ce que Pierre dit ensuite est important pour celles et ceux qui accomplissent un service. Et aucun service dans l'Église ne devrait être rendu sans cette considération. Frères et sœurs, nous servons avec la force que Dieu donne. C'est Dieu qui nous met en capacité de servir. Et nous devrions dépendre entièrement de la force qui vient de Dieu. Voyez combien Dieu est généreux. Nous recevons de lui et le don et la force de l'exercer. Et il se peut parfois que nous nous sentions épuisés par notre service, par notre ministère, parce que nous n'avons pas compté sur cette force qui vient de Dieu.
Parfois,
Avec le temps, nous avons peut-être fini par oublier que c'est dans cette dépendance de Dieu que nous servons les autres, et non en puisant en nous-mêmes. À aucun moment, Dieu nous demande de servir jusqu'à l'épuisement. Souvenons-nous au contraire de ce verset. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Nous avons besoin de tous les dons que Dieu a distribués dans notre Église. C'est pour cela qu'ils ont été donnés. Et cela veut dire aussi qu'en tant que chrétiens, nous pouvons déjà nous mettre au service des autres, puisqu'à chacun, Dieu a accordé une grâce. À chacun, il a accordé une grâce, il n'a oublié personne. Puisque tout vient de Dieu, sa parole, ses dons et la force qu'il donne, alors nous comprenons pourquoi le verset 11 se termine ainsi. Afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Tout chrétien racheté grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ vit désormais pour Dieu et pour sa gloire. Et dans l'Église, tout ce que nous faisons les uns pour les autres doit servir ce seul but. Quand je parle, si j'annonce la parole de Dieu, c'est pour mettre à l'honneur l'auteur de cette parole, Dieu. Et quand je sers mes frères et sœurs, je le fais en dépendant de la force qui vient de Dieu et non en étant fier de mes propres capacités. Tout est en lien avec la gloire de Dieu et jamais la gloire des hommes, jamais notre propre gloire. Malheureusement, nous sommes tellement faillibles lorsque nous nous mettons nous-mêmes en avant dans l'Église. C'est la tendance naturelle des hommes pécheurs, se faire Dieu à la place de Dieu. Et tout à l'opposé de nous, Jésus, à qui appartiennent gloire et puissance, n'a pas cessé de rendre gloire à Dieu son Père. Nous le voyons tout au long des évangiles. Il est le seul à avoir glorifié Dieu parfaitement en tout point, comme nous aurions dû le faire. C'est pourquoi aujourd'hui nous dépendons de sa perfection, de sa médiation, pour que notre service et nos œuvres soient acceptés par Dieu.
C'est pourquoi aujourd'hui nous dépendons de sa perfection, de sa médiation, pour que notre service et nos œuvres soient acceptées par Dieu.
Nous ne sommes que des intendants et des serviteurs. Et tout ce que nous accomplissons comme service dans la communauté de Saint-Maur, nous le faisons pour les autres et pour l'unique gloire de Dieu. Christ revient bientôt. La fin de toute chose est programmée, même si nous en ignorons la date. Et comment, en tant que communauté chrétienne, devons-nous vivre ? D'abord en veillant à retrouver un mode de vie suffisamment équilibré pour nous permettre d'avoir du temps pour prier. Ensuite, en veillant à ce que notre amour les uns pour les autres ne se refroidisse pas, mais qu'il soit constant et s'exprime constamment, s'exprime notamment par l'accueil des frères et sœurs dans nos foyers. Et enfin, en veillant au bon usage du don que nous avons reçu pour le service de la communauté qui appartient à Dieu. Sobriété, prière, amour ardent, hospitalité, service, ce sont sur tous ces aspects qu'il nous faut porter nos efforts dès cette rentrée 2024. Ce sont les instructions que le Seigneur nous communique ce matin. Ce sont les domaines où le Seigneur nous demande encore de progresser. Nous y arriverons, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit qui nous a été donné nous rend capables d'être l'Église telle que Dieu le veut, avant la fin de toute chose. À Dieu donc soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, au siècle des siècles. Prions ensemble. Ce matin, nous avons entendu ta parole. En tant qu'Église, nous avons entendu ce que tu attends de nous. Et tu nous appelles d'abord à être sages et sobres dans cette vie. Afin d'être disponible pour la prière. Tu nous appelles, Seigneur, à nous aimer les uns les autres ardemment, d'une manière constante. Tu nous appelles également à pouvoir exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans nous plaindre. Avec les dons que tu nous as donnés, tu nous demandes aussi d'en faire un bon usage. Pour le bien de la communauté. Pour le service des frères et sœurs. Pour aimer celles et ceux qui sont dans le besoin. Et tu nous demandes de servir avec la force que tu donnes. Pour qu'au bout du compte, toute la gloire te revienne. Et c'est vrai, c'est à toi qu'appartient gloire et puissance pour tous les siècles. Conduis notre Église dans cette direction. Renouvelle en nous l'amour que nous avons, que nous devons les uns envers les autres. Et que nous soyons une Église qui obéit à ta parole. Tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.